Studio Tamani, voici les informations en français.
Merci à tous d'avoir choisi le programme de Studio Tamani pour vous informer. Il est 18h à Tinzawaten, le titre de cette édition. La région de Kidal a enregistré un déplacement massif des populations vers l'Algérie et d'autres villes de la région. C'est ce qu'a annoncé le bureau de la coordination des affaires humanitaires de l'ONU OCHA dans son bulletin d'information. L'église chrétienne évangélique du Mali a célébré ce matin son centenaire à travers des prières et louanges à Jésus-Christ. L'événement est placé sous le thème « L'enfant de l'alliance missionnaire, connaît tes origines et va plus loin ». Les élèves des écoles privées en grève déplorent les conséquences de l'arrêt de travail de ces établissements sur leurs études. Vous allez écouter leurs réactions dans la rubrique « On en parle ». Voilà pour le sommaire de cette édition qui vous sera présentée par Imran Akilomaïga et Mamadou Ouattara sur la mise en onde. Bonsoir. Plus de 32 000 personnes se sont déplacées dans la région de Kidal entre décembre 2022 et septembre 2023, soit une augmentation de 116%. Ce chiffre a été rendu public le 8 novembre 2023 par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l'ONU, OCHA. Il précise que cette évolution est consécutive aux opérations militaires lancées dans le cadre de la récupération des emprises de l'aménagement. Adam Amadou Haïdara.
De 6116, le nombre de déplacés est passé à 32 394 en septembre 2023, souligne OCHA dans son document. L'agence onusienne ajoute que les acteurs humanitaires opérant dans la zone de Kidal ont mis en exergue les affrontements et les opérations militaires débutées en septembre 2023. Des affrontements qui ont provoqué un important déplacement de personnes vers diverses localités de la région. Selon OCHA, les villes de Kidal, Aguelhok, Anefif, Tessalit se seraient vidées d'environ 70% de leur population et d'ajouter que la plupart de familles aisées seraient parties en Algérie, alors que les familles moyennes et pauvres dans les secteurs environnants, Talhadak, Tinzawaten, Abeibara, Tintagen, près de Timayawen en Algérie. En outre, dans les cercles de Tessalit, Abeibara et Tin Essako, certaines populations qui vivaient dans les campements aux alentours des villages se seraient déplacées vers les chefs-lieux de ces cercles et d'autres vers l'Algérie. Cette situation a considérablement augmenté les besoins humanitaires dans un contexte marqué par l'insécurité, les combats et attaques sporadiques.
La Direction régionale du développement social et de l'économie solidaire de Kidal annonce que des mesures sont en cours pour la gestion humanitaire d'urgence en faveur des personnes déplacées internes de la région. Selon son directeur, d'autres mesures sont également en cours pour faciliter le retour de ces déplacés dans leurs localités respectives. Réagissez à toutes ces informations sur les réseaux sociaux à travers notre page Facebook ou notre compte Twitter. 1923-2023, l'église chrétienne évangélique du Mali a 100 ans. La célébration du centenaire de l'ECM a été marquée ce matin au Centre international de conférences de Bamako par des prières et louanges à Jésus-Christ, des chants et des conférences. L'événement est placé sous le thème « L'enfant de l'alliance missionnaire, connaît tes origines et va plus loin ». Moussa Malé Sissoko était à la cérémonie d'ouverture.
Ce sont ces louanges et prières qui ont donné le ton aux festivités de ce centenaire. Les premières stations missionnaires ont été installées à Sikasso en 1923 avant de se propager à travers le pays. Durant ces années, l'évangélisation, la formation et les œuvres sociales ont été menées par l'Église. Selon le révérend pasteur Sadrak Diara, président de l'ECM.
1923-2023 est aussi l'occasion d'évaluer l'Église chrétienne évangélique, de nous projeter et de penser aux perspectives de croissance de l'Église chrétienne évangélique.
Le secrétaire général du ministère des Affaires religieuses et du culte, Toumani Sangaré, a témoigné de nombreuses réalisations de cette Église.
Elle a fait des réalisations immenses sur le plan social, culturel, économique, surtout spirituel. Cette Église a été à tous les rendez-vous de bénédiction, de prière pour ce Mali et sur tous les autres plans, dont le développement du pays.
Les activités du centenaire de l'Église chrétienne évangélique seront clôturées ce samedi par un concert au Palais des Sports de Bamako.
Au même moment, la communauté chrétienne s'apprête pour accomplir le pèlerinage. Cependant, l'affluence autour d'un stand est morose à quelques heures des festivités du pèlerinage catholique de Kita. Comme chaque année, des stands sont installés en face de la paroisse de Kita pour satisfaire les besoins des clients et des pèlerins venus en grand nombre. Toutefois, des exposants soulignent la lenteur du marché. Reportage de notre envoyé spécial à Kita, Fatoumata Kodjo.
À l'entrée du site, les ornements de l'église sont perceptibles partout, notamment les croix, les chapelets et les tissus de la Vierge Marie. Pour le moment, des exposants affirment que la clientèle est timide. D'autres aussi voient leur chiffre d'affaires grimper.
Nous avons commencé à commercialiser nos produits. Tout se passe bien.
Moi, je viens. On quitte au Burkina. Pour le moment, il n'y a pas marché. Moi, je vends des pains tissés, puis les chapelets et puis l'ankana.
Par jour, je parviens à vendre 30 à 35 000 francs. Les marchés rentable.
Les clients de leur côté admirent les articles exposés et les trouvent abordables.
C'est de bonne qualité en tout cas. Bon, les prix ça va.
Les articles sont de bonne qualité et les prix sont abordables.
Ces marchands espèrent faire une bonne affaire d'ici la fin du pèlerinage. Des pays voisins aussi participent à cette activité comme le Burkina Faso. Dekita, Fatoumata Kodjo pour Sidjo Tamani.
Parlons à présent de sport au football. Le Mali affronte à 19h le Tchad pour le compte de la première journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Les supporters des Aigles se mobilisent en masse pour soutenir l'équipe au stade du 26 mars de Bamako. Pour Chekne Ademba, un des vice-présidents de l'Union nationale des supporters du Mali, ce match est décisif pour la réussite de cette phase. Il est au micro de Juliette Koulibaly.
Et dire qu'aujourd'hui, on est prêt pour aller affronter les Tchadiens. Dire aux supporters de sortir massivement. La commission avait mis les billets à 2000 francs. Mais après, le cri de cœur a été entendu. Ils ont carrément baissé les prix des billets d'entrée à 1000 francs. Or qu'on va aller en Coupe du Monde, on va aller prendre la Coupe d'Afrique, cette canne en Côte d'Ivoire. Mais ce match d'aujourd'hui est capital. C'est un match, il faut avoir les 3 points, mais ça doit se faire dans les plus grands fair play. On est membre de la commission d'organisation pour cette CAN 2023, mais qui se joue en 2024 en Côte d'Ivoire. Enfin, on est associé à la délégation des précurseurs qui vont aller sur place à Korogo, à San Pedro. Inch'Allah, cette année, c'est notre tour et ça va aller.
La seconde semaine de grève des écoles privées prend fin ce vendredi à minuit. Les élèves déplorent déjà les conséquences de cet arrêt de travail sur leurs études. Ceux de Bamako, Tominian, Kadjolo et Koutiala exhortent les autorités et les promoteurs d'écoles à trouver rapidement un compromis pour qu'ils retrouvent le chemin de l'école. Écoutons ces réactions recueillies par Khalifa Goïta avec l'appui de nos correspondants locaux.
De Koutiala, cette grève-là, ça nous choque vraiment. Vraiment, ça nous dérange. Demander aux promoteurs, en même temps des autorités aussi, fassent vraiment des cadres, puissent aller à l'école faire notre étude.
J'ai fait la deuxième année dans une école privée de Tominia. Ça joue sur nous. Cette grève, ce n'est pas bon pour notre formation.
Nous sommes fatigués. Vraiment, il faut que les autorités essayent de voir notre situation. On a perdu beaucoup de niveaux.
Chez nous, à Kadjolo, la grève va retarder nos programmes, surtout pour nous les candidats.
Il y a des lycées publics qui sont en train d'étudier. Ça va bouleverser les programmes. Dans des programmes de bac comme ça, on peut donner des sujets et que nous, on n'a pas vu. Ça va baisser notre échange. Des récits. On appelle à l'État les problèmes qui sont là, donc à résoudre.
S'agissant toujours de la grève des établissements privés du Mali, les responsables du regroupement annoncent la tenue d'une assemblée générale ce samedi pour décider de la suite à donner à leur cessation de travail. Il faut rappeler que les promoteurs d'écoles privées exigent du gouvernement le paiement intégral de leurs arriérés de subventions estimées à 59 milliards de francs CFA. À présent, le résumé de l'actualité de la semaine avec Halima Yatara.
On introduit la rétrospective de la semaine par la qualification au 8e de finale des cadets maliens à la Coupe du Monde U17. Ils ont étrié l'équipe du Canada par le score de 5-1. L'entraîneur des Aiglonais, Soumaïla Koulibaly, a dédié cette victoire à la reprise de la ville de Kidal par l'armée malienne. Autre actualité de la semaine, c'est l'arrivée des pèlerins marcheurs catholiques ce jeudi matin 16 novembre à Kita. Le 52e pèlerinage national des chrétiens catholiques débutera demain samedi dans la localité. Terminons cette rétrospective par la célébration le 14 novembre dernier de la Journée mondiale de la lutte contre le diabète. Au Mali, la maladie touche environ 740 000 personnes selon une statistique de la Direction générale de la santé et de l'hygiène publique de l'année dernière.
C'est tout pour cette édition de la journée qui vous a été présentée par Imran Akilo Maïga. Mais avant, nous recevons Mariam Maïga pour l'introduction du grand dialogue. Quel thème sera abordé ce soir?
Que retenir de l'actualité footballistique de cette semaine? Imran Akilo Maïga, c'est le thème de notre émission Le Grand Dialogue de ce soir. Et on en parle avec des chroniqueurs sportifs, Amadjar Traoré, Souley Koulibaly et Abdoul Dembélé. Et l'émission se fera en langue nationale, Bamanankan.
Merci Maria Maïga et bon débat en langue bamanakan. Cependant, retenez ce numéro 37-321 sur lequel vous pouvez réécouter ce journal en appelant gratuitement sur Viamu. Nos productions sont également disponibles sur l'application Studio Tamani, téléchargeable sur Play Store.
Attention, la dengue existe au Mali. De nombreux cas sont enregistrés dans le pays. Ousmane Touré, un malade guéri, nous parle des symptômes de la maladie.
Moi, j'ai eu la dengue. Ça s'est d'abord manifesté par beaucoup de courbatures, de violents maux de tête, des nausées. Je me sentais très, très, très faible également. Mais le fort, c'est vraiment les courbatures qui m'ont fatigué. On a mal absolument partout, de la tête aux pieds.
La dengue n'est pas à prendre à la légère. Seule une prise en charge rapide augmente les chances de guérison, affirme Monsieur Touré.
Ce n'est ni un palu, ni autre chose, c'est la dengue. Et c'est vrai que c'est provoqué par les moustiques. Et il faut prendre cette maladie au sérieux parce qu'elle est en train de faire énormément de mal, énormément de dégâts autour de nous. Il faut se faire dépister. En cas de besoin, n'allons pas seulement faire le test du palu, faisons également le test de la dengue pour nous rassurer.
Ceci est un message des studios Tamani.
En partenariat avec le ministère de la Santé et du Développement Social.
Au Mali, les autorités et des particuliers se mobilisent pour labelliser certains produits. Parmi ceux-ci, la viande rouge et ses dérivés, le bogola entre autres. Selon des économistes, la labellisation a des avantages. Elle permet de booster l'économie nationale, mais également de donner la visibilité aux produits. La labellisation des produits et son apport à l'économie nationale, on en parle dans ce magazine Économie réalisé et présenté par Aïssa Tagara.
La labellisation, en plus de donner une marque distinctive à un produit, permet également de renforcer la compétitivité sur le marché international. Pour Mokhtar Babakonta, responsable en charge des questions d'enregistrement des types au niveau du Centre malien de promotion de la propriété industrielle CEMAPI, la labellisation obéit à des critères.
Prime abord, il faut identifier d'abord le produit. Quel est le produit qui peut être labellisé? Maintenant, on passe par son étude pour voir les localités, les zones dans lesquelles cette production s'est faite, ça on appelle la délimitation de la zone. Après ça, il faut que le projet soit porté par un groupement et une lettre de reconnaissance délivrée par les autorités qui attestent qu'effectivement ce produit est reconnu comme un produit qui a des caractéristiques. Les demandes sont déposées au Mali et transmises au niveau de l'OAPI, au Cameroun, là où il y a le siège.
Cette labellisation a des objectifs spécifiques selon Mokhtar Babakonta du CEMAPI.
L'avantage de la labellisation, c'est promouvoir la qualité d'un produit et du savoir-faire d'un groupement association, développer les zones rurales tout en améliorant le revenu de la population, développer les opportunités pour les produits locaux de pénétrer les marchés nationaux et internationaux, maintenir des prix qui résistent mieux aux aléas du marché mondial.
Présentement, le Mali a plusieurs produits labellisés qui sont des marques collectives, dont les bogos en phase terminale. Depuis quelques mois, une étude de faisabilité pour labelliser la viande rouge du Mali et ses dérivés a été lancée. Aboubakar Ba, président de la Fédération Bétail Vienne du Mali, salue l'initiative. Mais il doute de la faisabilité très prochainement.
La viande made in Mali, donc, ça permettra d'identifier et peut-être nous allons valoriser aussi notre produit. Et ce n'est pas demain qu'on pourra exporter la viande made in Mali. Pour exporter la viande, il faut avoir d'abord des accords zoosanitaires. Nous avons certaines maladies dans notre cheptel ici. Il faudrait que nous ayons assainir totalement notre cheptel, identifier les différentes maladies, les combattre, identifier la provenance des animaux.
Pour Abdoulkarim Djamoutene, économiste, la labellisation est une bonne opportunité pour l'économie nationale. Selon lui, beaucoup des produits maliens ne sont pas exportés car ils n'ont pas de certification.
Avec les contrefaçons, avec le déficit de qualité des différents produits, poser une étiquette sur un produit donne une certaine garantie. Ça facilite l'écoulement parce que c'est une garantie. Que quand on regarde un peu le coût de notre produit au Mali, surtout et une économie agro-silvopastorale, consommée aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays, des conditions de production et autres là, souvent laissent à désirer de manière artisanale. Et donc, ça facilite l'exploitation de différents produits. Ça vous offre plus de marché.
Au-delà, l'économiste Djamoutene affirme qu'au niveau national, elle exhorte à l'innovation et au travail pour le développement.
C'est une incitation donnée aux autres produits de faire du sérieux, de tenter d'aller vers la labellisation qui va
également leur offrir ces différentes opportunités. Donc, oblige les gens à innover, à se donner plus, à plus de créativité, à plus d'invention et d'innovation.
À noter que des produits comme le sel gemme, la mangue, le beurre de karité et plusieurs autres sont en cours de labellisation.